Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Antiquissimo avec Yann Le Boeck en ce beau jeudi du mois de janvier à nouveau pour une émission que j'ai intitulée « Focus sur les Romains au combat » avec Yann Le Boeck, bien sûr. Alors Yann, on ne le présente pas, on ne le présente plus. Professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, c'est la seule chose que je vais dire aujourd'hui, tellement sa carte de visite est impressionnante. Je le salue tout d'abord. Bonjour Yann et bonne année.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs et bonne année à tout le monde.
Et oui, il est encore temps de se souhaiter le meilleur pour 2026. Donc Yann, on ne le présente à personne et à Antiquissimo non plus, puisque chaque fois ou presque depuis que je le connais et que cette émission Antiquissimo existe, qu'un livre de Yann Le Boeck nous est proposé, nous faisons une émission. Tellement son expertise dans beaucoup de domaines de l'Antiquité, mais en particulier sur l'armée, l'histoire militaire, est importante et reconnue. Donc là, justement, un nouveau livre. Alors, d'habitude, je rappelle le nombre de livres précédents, mais là, il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas gaspiller des minutes à répéter ce que j'ai déjà dit. Donc là, ce livre qui est sorti tout récemment, donc j'en dis le titre complet, c'est « Les Romains au combat, grande bataille et grand siège ». Eh bien, je vais demander tout de suite, question banale mais essentielle, pourquoi ce livre ? Yann Le Boeck. Donc, je signale quand même que dans ce livre qu'on détaillera tout à l'heure, le prélude l'explique, hein, les lecteurs le retrouveront. Mais dites-nous de vive voix, pourquoi ce livre ?
Eh bien, comme vous l'avez dit très gentiment, je me suis beaucoup occupé de l'armée romaine. Je m'en suis occupé d'abord comme une institution, les unités, les officiers, l'encadrement, le recrutement, etc. Puis, le point de vue du général dans les batailles. Quel est le rôle du général? Et aujourd'hui, cette fois-ci, j'ai voulu aller jusqu'au bout de la recherche en histoire militaire, c'est-à-dire m'occuper du rôle du soldat au combat, comment le soldat, le légionnaire de base, voyait l'affrontement avec l'ennemi, avec le barbare, et surtout comment il combattait. L'intérêt, l'originalité de ce travail, je pense qu'on trouve ça nulle part ailleurs, c'est de montrer que le légionnaire, quand il aborde l'ennemi, a deux instruments pour le tuer, parce que bon, le rôle du soldat est de tuer des ennemis, il a son javelot et son glaive, son épée. Alors pour que les choses soient précise, claire, pour que je comprenne bien moi-même d'abord avant de l'expliquer aux autres, je me suis adressé d'abord à un ami qui était professeur de physique à l'université de Rennes et qui m'a expliqué quel était l'intérêt du javelot, comment il fonctionnait. J'ai appris avec surprise, parce que je n'y pensais pas, que finalement, qu'on le lance tout près à 4 mètres ou à 20 mètres, il conserve une grande force de pénétration. À 20 mètres, c'est plus de 80% de sa force de pénétration. Et pour le combat à l'épée, c'est-à-dire pour l'escrime, je me suis adressé à une amie qui a eu une médaille d'or en escrime aux Jeux Olympiques de Tokyo et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en Californie, je crois que c'était à Los Angeles. Et avec l'un comme avec l'autre, j'ai discuté de ce combat individuel. Et je pense que dans ces pages, on trouvera des choses originales, notamment, par exemple, le javelot n'est jamais lancé que très près. Sinon, lancer depuis 20 mètres un javelot sur une armée ennemie, ça ne sert à rien. L'ennemi a le temps de lever son bouclier, de se déplacer, et bon, même si le javelot conserve beaucoup de force de pénétration, il en perd une partie. Donc, il faut vraiment l'utiliser au dernier moment, le soldat l'utilise au dernier moment, quand il arrive devant l'ennemi, qu'il voit ses yeux. Hein, c'est le combat corps à corps, véritablement, les yeux dans les yeux. Donc, concrètement, le soldat quand il arrive à 4 ou 5 mètres, lance son javelot sur le premier ennemi qui est en face de lui. Là, il a la précision du tir, il sait où il faut frapper, et ensuite, il dégaine son glaive, et il affronte à l'escrime celui qui est derrière, le deuxième ennemi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez sur un espace de 10-15 mètres les quatre membres du soldat qui sont en activité. Et c'est une chose qui n'est possible, vous essaierez. Hein,
oui, je vais m'empresser. De retour à la maison, je prends mon javelot, c'est promis.
Voilà, vous verrez, ça n'est possible que si le soldat a un très très bon entraînement, s'il fait ça pratiquement au moins toutes les semaines, une, deux, trois fois par semaine. Et c'est ce qui était le cas dans l'armée romaine, c'est une des raisons d'ailleurs de l'efficacité de l'armée romaine, de l'efficacité des légionnaires, c'est qu'ils étaient très bien entraînés.
Alors justement, on y reviendra à des soucis précieux de vocabulaire dans votre livre, mais le mot « exercitus », qui désigne l'armée, dit bien que c'est l'endroit où on s'exerce sans arrêt, où on est sans arrêt à l'entraînement, ce que vous venez de rappeler. Alors ce livre... Ce beau livre, avec une magnifique couverture, commence par une cinquantaine de pages fort documentées où il y a donc ce prélude, vous expliquez ça, une chronologie énorme, je vais y revenir dans un instant, des cartes et effectivement une petite initiation à la machéologie des Romains. Alors la chronologie, je vais commencer par ça, alors évidemment vous en doutez qu'on ne va pas la détailler, mais je voudrais que vous disiez à nos auditeurs pourquoi ça commence en 753 et pourquoi ça s'arrête à 451.
Alors, 753 avant Jésus-Christ, c'est la date officielle de naissance de la ville de Rome.
21 avril.
Le 21 avril, oui. C'est une date qui est mythique. Hein. Concrètement, oui. D'après l'archéologie, Rome est née entre 750 et 700 avant Jésus-Christ. C'est là où on voit les premières concentrations de céramique et de bases de murs, et les bases de murs les plus anciennes. Alors donc là, c'est la naissance de la ville, et en même temps que la ville est née, à partir du moment où il y a une ville, c'est-à-dire une agglomération, vous avez à l'intérieur de cette agglomération des richesses et des humains accumulés. Donc les richesses, c'est un attrait pour les voisins qui ont envie de les piller, et il ne faut pas se voiler la face, hein, imaginez que tous étaient de bons chrétiens pratiquant la charité, et les voisins avaient envie de piller. D'un autre côté, les hommes qui étaient dedans étaient des soldats potentiels, étaient des ennemis potentiels, et ils représentaient un danger. Donc l'idée de prendre cette ville et de la détruire venait aux esprits de tous les voisins, et en même temps, les Romains avaient le désir de piller les voisins et de les affaiblir en tuant une partie de leurs soldats. Et Rome, dès le départ, s'est révélée une société de pillards. Hein. Au départ, c'était vraiment des éleveurs en grande partie, des paysans de toute façon, mais qui se transformaient en pillards dès qu'ils le pouvaient. Et ils ont suscité une haine de tous leurs voisins, ce qui est assez extraordinaire. Tous les habitants du Latium les haïssaient parce que justement, ils les craignaient et ils avaient eu à souffrir de leurs agressions.
Et alors de l'autre côté, on a 451.
Alors 451, c'est une date de prise un petit peu au hasard. En fait, je considère qu'il y a... Alors c'est un point de vue qui est personnel. Hein. Beaucoup d'historiens pensent que la transition s'est faite en douceur. Mais en fait, en 406, des barbares, Vandales, Alains, Suèves, franchissent le Rhin dans la nuit du 25 décembre. Et en 410, la capitale Rome est prise par deux fois par les Visigoths. Donc, je veux dire, à partir de 410, l'Occident romain n'existe plus. Son armée, l'armée qui s'y trouve, n'a aucune efficacité, elle ne sert à rien. Hein. Les soldats se cachent dans leur camp et attendent que ça se passe. Et en fait, de 410 jusqu'en 476, il y a... 476, c'est l'année où le dernier empereur est déposé par un chef barbare, le Scyro d'Oacre, qui prend les insignes du pouvoir impérial et qui les renvoie à Constantinople en disant « bon, l'Empire de Rome n'existe plus ».
Voilà.
Voilà. Donc, si vous voulez, Rome a disparu, l'Occident romain a disparu entre 410 et 476, une disparition lente, mais enfin une disparition quand même. Pendant le même temps, l'Orient romain, avec pour capitale Constantinople, pour langue le grec, pour religion imposée, je dis bien imposée, le christianisme, se développer et développer une civilisation que pour ma part je trouve tout à fait sympathique et intéressante, mais tous les gens qui ont visité la Grèce par exemple et visité les monastères, les églises ont vu des peintures sublimes et il y a beaucoup de choses qui étaient très brillantes dans cette civilisation, mais ça n'est plus la civilisation romaine que l'on a connue.
Alors, avant d'aborder les sources, petit rappel, parce que vous avez à cœur de le dire, et moi aussi, le mot barbare n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas forcément un barbare sanguinaire, c'est celui qui ne parle pas latin ou grec. Et vous avez parfois précisé qu'on peut aller parler cuisine, vous savez combien ça m'est cher, et dire que c'est aussi ceux qui ne cuisinent pas à l'huile d'olive. Mais donc, ces barbares dont nous parlons, puisque parfois il y a des contresens là-dessus et des gens qui ne veulent plus qu'on utilise le terme invasion barbare comme si c'était sacrilège. Eh bien, ce mot barbare, il faut le définir. Donc, ensuite, parlons des sources. Les sources littéraires, les sources archéologiques qui vont peut-être déterminer le plan que vous avez adopté dans ce livre où après ces 50 pages, mais je n'ai pas fini d'en parler des 50 pages, vous attaquez le sujet en 7 parties que nous n'allons pas détailler. Le but du jeu, ce n'est pas de détailler tout ce qu'il y a dans votre livre, encore moins de citer toutes les batailles parce qu'il y en a que je ne connaissais même pas. J'ai appris beaucoup de choses en lisant votre livre. Simplement les sources. Est-ce qu'on peut donner rapidement quelques sources littéraires pour nos auditeurs et parler rapidement aussi, parce qu'il faut un petit peu tout dire en peu de temps, des sources archéologiques?
Alors, pour les sources littéraires, bien sûr, il y en a énormément. Les plus intéressantes, ce sont les plus connues. Ce sont des historiens, notamment Tite-Live pour l'époque républicaine et Tacite et Dion Cassius pour l'époque impériale. Mais il y a toute une littérature qui est très peu connue, qui est formée de textes militaires. C'est des écrits qui sont destinés à aider un général dans l'exercice de son métier. Ça, c'est pour les textes, plus le droit romain qui est rempli de renseignements. Et pour l'archéologie, il y a énormément de choses et on en découvre tous les jours. Ce sont d'abord des camps, les traces de camps romains, les murs d'Adrien en Bretagne, murs d'Antonin, murs du diable en Allemagne. Et puis partout où il y a des camps, on retrouve des désarmements, des armes. Et maintenant, il y a une nouvelle discipline qui est en train de se développer et dont on parle très peu, c'est l'archéologie des champs de bataille. Des archéologues ont retrouvé des champs de bataille, notamment en Allemagne, ça a commencé d'ailleurs avec la bataille du Teutobourg, où en 9 oui. après Jésus-Christ, 3 légions romaines ont été anéanties avec leurs auxiliaires.
Et ont hanté les cauchemars d'Auguste.
Et ont hanté les cauchemars d'Auguste. Et donc, et très récemment, on a découvert un autre champ de bataille oui. en Allemagne, au Harzhorn. C'est très peu connu parce qu'il n'y a rien en français, sauf un petit livre que j'ai écrit pour faire connaître ces trouvailles tout à fait extraordinaires.
Alors oui, moi je l'ai découvert, j'ignorais complètement, ces découvertes d'hypo-sandales, je crois, hein, c'est ça?
Voilà, à partir d'une hypo-sandale, c'est-à-dire d'une sandale utilisée pour les chevaux. Et donc on a un chercheur qui voulait se procurer des pièces de monnaie, de l'or, des vieux objets, avec un détecteur de métaux, a trouvé une hypo-sandale. C'est une pièce de métal qui protégeait le sabot des chevaux. Il l'a porté, il l'a conservé d'ailleurs pendant 7-8 ans, je ne sais plus. Puis il l'a porté au service archéologique de la ville voisine. Et l'archéologue, quand il a vu cette hypo-sandale, a compris tout de suite qu'il y avait un champ de bataille parce que seule l'armée romaine utilisait des hypo-sandales.
Alors, on va marquer une petite pause parce qu'il le faut pour introduire de la musique, comme d'habitude. Et ensuite, nous parlerons de machéologie et un petit peu de vocabulaire avant d'expliquer comment vous avez conçu l'architecture de votre livre. À tout de suite, Yann.
À tout de suite.
Alors, Antiquissimo, Radio Alliance Plus, Yann Le Boeck et focus sur les Romains au combat. Nous sommes dans cette découverte passionnante parce que j'ai parlé d'un gros et beau livre. J'ajouterai l'adjectif très clair. Hein. Il y a énormément de schémas, de tableaux. Évidemment, ici, on ne peut pas rendre compte de tout, mais je le dis, ça se lit très facilement et on apprend énormément de choses. Alors, moi, j'ai découvert ce mot. Bon, je croyais connaître beaucoup de choses, mais pas tant que ça, finalement. La machéologie. Vous faites en effet un petit sort à cette explication de termes et à cette initiation dans les 50 pages qui préparent le livre. Alors, qu'est-ce que c'est que la machéologie ?
Eh bien, le mot lui-même est un néologisme que j'ai fabriqué. Il y a un de mes collègues qui m'a dit « tu aurais dû mieux appeler ça machéologie ».
Oui, moi, au début, j'ai cru que c'était machéologie, oui, c'est vrai.
Mais... Bon, je préfère machéologie, ça sonne plus durement.
Oui.
Et comme c'est la technique du combat, la science du combat, il faut être dur. Donc, la machéologie, c'est l'étude des conditions et de la réalisation des combats par les soldats romains.
Et donc, vous en détaillez les aspects, ça aussi c'est passionnant, parce que vous donnez quelques thématiques qui permettent en effet d'aborder ce sujet de l'histoire militaire. Alors justement, on avait dit qu'on aborderait aussi le vocabulaire, qui est vraiment important. Définir ce que c'est que le miles, le soldat, mais tout à l'heure vous l'avez déjà dit, le miles c'est celui qui tue et qui évite d'être tué. Mais j'ai bien aimé aussi dans le livre le petit détour étymologique sur le mot legio, la légion.
Oui, la légion, légion est un mot qui appartient à toute une famille d'autres mots latins bien connus, et notamment le verbe legere qui veut dire choisir. Oui. Le miles est celui qui a été lectus. Donc il y a un choix parmi beaucoup de jeunes gens, des meilleurs, lors du conseil de révision qui s'appelle le dilectus. Vous retrouvez toujours la même racine. Le légionnaire est un homme qui est choisi, c'est un homme d'élite par conséquent. Il est choisi d'abord pour ses qualités physiques. J'ai découvert dans une petite étude qui est assez confidentielle et que peu de gens connaissent, qui a été rédigée par deux médecins, que le légionnaire, en fonction de son entraînement, de ses activités, du poids qu'il devait porter, est l'équivalent d'un athlète de haut niveau actuel. C'est tout à fait exceptionnel. Donc, il est choisi en fonction de ses qualités physiques. Il faut qu'il soit capable de faire des choses extraordinaires, exceptionnelles. Et puis, il est choisi aussi, accessoirement, en fonction de qualités intellectuelles. Il faut quand même qu'il ne soit pas totalement idiot, qu'il comprenne bien les ordres, qu'il soit...
Oui, et puis même, on a découvert, on avait déjà parlé ensemble de cette belle exposition qui avait lieu à Paris sur l'histoire du soldat au travers des âges. Et on voyait dans une vitrine, dans le paquetage, de quoi coudre, de quoi cuisiner, mais aussi de quoi lire et écrire.
Oui, le soldat doit savoir tout faire. Et au moins une partie d'entre eux, alors c'est des études récentes qui l'ont montré, au moins une bonne partie d'entre eux, c'était lettrés. Ils savaient lire, écrire. Et dans certaines régions, il fallait qu'ils soient polyglottes. Par exemple, un soldat qui vivait dans le camp romain d'Alexandrie, qui était un légionnaire d'Alexandrie en Égypte, devait parler le latin parce que c'était la langue de commandement. Ça, oui. On ne peut donner d'ordre et recevoir d'ordre que s'ils sont en latin.
Ensuite, et donc même les barbares qui baragouinent, eux, ils doivent s'y faire aussi au moins quelques ordres élémentaires.
Bien sûr. Et c'est pour ça que nous parlons français, vous et moi, en ce moment. C'est une langue latine. C'est parce que les Francs, qui étaient des barbares germains, quand ils sont entrés dans l'armée romaine, ont été obligés d'apprendre le latin. Et on parlait cette langue qui a donné la langue française actuelle.
Et oui, on ne cesse romaine. De le dire que c'est le nerf de la guerre, d'apprendre la langue immédiatement, c'est le secret de l'assimilation. Alors d'ailleurs, on parlait de nourriture aussi, c'est la nourriture d'un sportif, puisqu'il y a aussi des études qui ont été faites là-dessus. Dans
bien
le vocabulaire,
sûr.
Vous avez aussi glissé le mot tumultus, sur lequel on pourrait se méprendre. Car le tumultus, ce n'est pas la pagaille, c'est quoi ?
Ce n'est pas le désordre. Alors, on interprétait tumultus autrefois comme la mobilisation générale. C'est une absurdité, il n'y a jamais eu de mobilisation générale à Rome, comme il y a eu en 1914 contre les Allemands ou en 1939. Le tumultus, c'est une mobilisation en urgence, c'est-à-dire qu'on prend les premiers jeunes gens qui se présentent, à condition évidemment qu'ils soient capables de combattre et en bon état, et on les forme une armée tout de suite, parce qu'il y a une menace qui est très proche. Ça n'est pas la pagaille, comme vous dites, effectivement.
Et oui, parce que ça, donc, je pense que là, on a donné des clés indispensables. Les soldats sont recrutés, sont sélectionnés, et ils constituent une sorte de modèle, même si ils ne sont pas forcément très bien payés. D'ailleurs, dans votre étude, vous indiquez que ce salaire ne va guère évoluer, ils ne vont pas être augmentés, entre guillemets, et quand ça le sera, ce sera peut-être la fin de l'armée, justement, vous l'expliquez fort bien à la fin du livre. Mais donc, dans cette hiérarchie, il y a des officiers qui sont, dites-vous, triés par la naissance. Et quant aux soldats, le critère, c'est la richesse. Pouvez-vous nous vous expliquer pourquoi ?
Les officiers, d'abord, appartiennent à l'élite sociale. Les officiers supérieurs sont des sénateurs. En dessous, il y a des chevaliers. Donc, sénateurs, ce sont les légats de légion. Chevaliers, ce sont les tribuns de légion ou d'unités auxiliaires. En dessous, il y a les fils de notables de province qui sont centurions. Et il y a quelques soldats sortis du rang qui deviennent centurions, mais qui sont intégrés à une société qui est meilleure. Et les simples soldats, eux, sont des citoyens romains. Parce que c'est une chose que nous n'avons pas eu le temps de dire tout à l'heure au moment du recrutement, du dilectus, du conseil de révision. On vérifiait le statut juridique des gens. Citoyens romains, ils vont dans les légions ou dans la garnison de Rome. S'ils sont hommes libres mais non citoyens romains, un Gaulois, un Vénète ou autre chose,
ils
entrent dans les unités auxiliaires ou la marine.
Alors donc, ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent et en plus, ils doivent payer leur armement.
Ils paient absolument tout. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, leurs vêtements et aussi, vous avez raison, leur armement. Ils font attention évidemment à choisir les armes les plus efficaces, hein, les plus solides possibles, car évidemment il n'est pas question qu'une épée se casse pendant un moment d'escrime et il faut que le javelot soit utile, soit assez efficace pour abattre le premier ennemi rencontré.
Alors, je vois que le temps file à toute allure et qu'il nous reste très peu de temps. Et bien sûr, je l'avais dit, on ne va pas détailler toutes les batailles. Il faut vraiment lire ce livre. Mais revenir donc sur l'organisation des sept parties qui suivent une chronologie. Vous avez donné donc à chaque fois dans cette période, parce que comme vous l'expliquez fort bien, l'armée, elle n'est pas la même au début qu'à la fin, c'est tout à fait logique. Et vous montrez les batailles décisives, les enjeux décisifs dans ces sept parties. Et puis, l'armement qui change peu ou prou, mais on n'aura pas le temps de le détailler. Mais ce qui m'a frappé, c'est au tout début, le fait que ce soit essentiellement, vous le détaillez bien, des armes de jet avec des frondes, avec des arcs, avec des flèches. Et ensuite, bien sûr, on va arriver à ce glaive dont vous parliez tout à l'heure, ce scutum, ce bouclier, et tout ce qui fait que nous reconnaissons et nous admirons les soldats romains. Eh bien, Yann Le Bouec, merci pour cet entretien, pour ce beau livre que je recommande, « Les Romains au combat ». J'ai oublié de dire que c'est chez Talendier. Il faut se précipiter pour l'acheter et le lire.
Merci Martine, merci aux auditeurs.
À bientôt.
Bonne année encore.
Au revoir, à bientôt.